France Musique.
Saskia Deville, la matinale, France Musique.
Boucle blanche et lunettes cerclées, mon invité du jour est né à Liège, en Belgique, en 1953. Il étudie l'orgue et le clavecin, la musique est toute sa vie, et le plaisir du partage lui sert de carburant. Pas étonnant de le voir créer en 1989 un festival de musique contemporaine dans son pays natal, le festival Ars Musica. Quelques années plus tard, il succède à Gérard Mortier, à la tête du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Sa vision est celle d'un opéra à la fois attaché à ses racines et tourné vers la création. Et cette philosophie le poursuit et le guide dans sa mission actuelle au Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, dont il est le directeur général depuis 2007. Oui, 2007, c'est ça. Interprète, compositeur, gestionnaire, manager, défenseur d'une culture accessible à tous et du plaisir de la découverte. Bonjour Bernard Faucroul.
Bonjour Saskia.
Ce matin, nous fêtons l'anniversaire d'un chef d'orchestre et compositeur polonais né en 1913. Il a notamment été l'élève de Nikolaï Rimski-Korsakov. Il est pianiste, il a produit de la musique sérielle, il s'est inspiré de la musique populaire. Est-ce que vous avez une idée?
Un chef d'orchestre, compositeur
polonais, né en 1913, une petite idée?
Penderecki n'est pas si âgé que ça. Il vit encore, non?
Non, non,
bien sûr.
Witold Lutosławski.
Lutosławski, voilà.
Un compositeur grand, que vous appréciez?
Grand, absolument. Très, très grande figure.
Avec, vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec sa musique?
Non, j'ai pas mal entendu sa musique, mais je ne l'ai jamais, ni bien sûr dirigé, puisque je ne suis pas chef d'orchestre. Mm-hmm. Et puis, je ne pense pas qu'il écrit d'opéra. Donc voilà.
Pas à ma connaissance non plus.
Non. Mais très, très grande figure. Hein.
Je vous propose ce matin d'écouter ces variations sur un thème de Paganini, galopant ici sous les doigts de Martha Argerich et Mauricio Vaina. Écoutez à l'instant les variations sur un thème de Paganini de Witold Lutosławski, fougueusement interprété par Martha Argerich et Mauricio Vaina. Il est 8h10, l'heure de retrouver Antoine Pecker et sa chronique Culture Éco. Bonjour Antoine.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Ce soir, l'Orchestre National de Lyon lance sa fondation, nommée Fondation Philharmonique. Il s'agit d'une fondation abritée. En quoi cela consiste-t-il, Antoine ?
Alors déjà, il faut le rappeler, l'Orchestre National de Lyon est un établissement de la ville de Lyon en régime municipal. Il est donc difficile pour une structure de ce type de récolter directement du mécénat financier, notamment pour une question de traçabilité des fonds. Elle peut obtenir par contre du mécénat en nature, du champagne pour les cocktails par exemple, mais ce dont ont besoin les orchestres aujourd'hui, c'est du sonnant et trébuchant, d'autant que la subvention que donne la ville à l'Orchestre de Lyon est gelée, ce qui du fait de l'inflation équivaut à une baisse. Dans ce contexte de réduction des fonds publics, les orchestres ont donc besoin d'argent privé, et c'est pour cela que Jean-Marc Bador, l'ancien directeur de l'orchestre, aujourd'hui remplacé par Aline Samjiao, a eu l'idée de créer une fondation abritée. Alors, fondation abritée, qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'une fondation extérieure, une fondation donc dite abritante, va gérer la fondation de l'orchestre et donc la collecte de fonds. Il y en a plusieurs, des fondations abritantes. La plus connue, c'est sans doute la Fondation de France. En l'occurrence, il s'agit d'une fondation basée à Lyon, la fondation Bulukian. Et cette fondation Bulukian, qui avec l'Orchestre National de Lyon, comme me l'a expliqué hier Aline Samjiao, fait presque du mécénat de compétences puisque Bulukian ne fait pas payer ses frais de gestion. Ce soir, c'est donc, vous l'avez dit, Saskia, le lancement de la fondation. Pour l'occasion, l'Orchestre National de Lyon a organisé une vraie soirée de collecte de fonds à l'américaine, avec au programme la 7e symphonie de Beethoven, une œuvre qu'a choisi le public. La soirée vise à la fois les particuliers et les entreprises. La mise de fonds nécessaire pour lancer une fondation abritée a déjà été réunie. Elle est de 45 000 euros, mais l'orchestre veut aller bien au-delà maintenant, sans pour autant se donner, pour l'instant du moins, d'objectifs précis.
Et l'Orchestre de Lyon n'est pas la seule structure musicale lyonnaise à passer par une fondation abritée.
Non, l'Opéra de Lyon, comme l'a expliqué hier son directeur Serge Dorny, passe même par deux fondations abritées, Bulukian à nouveau, et aussi la fondation Roi Baudouin. Serge Dorny cherche notamment à lever des fonds à l'international. Les États-Unis sont un pays très convoité en raison des dispositifs d'incitation fiscaux. Du moins si Donald Trump ne change pas la loi Clinton, qui permet 80% de déduction. Je rappelle qu'en France, la loi Ayagon permet 66% de déduction pour les particuliers, limité quand même à 20% du revenu imposable et 60% pour les entreprises, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Autre structure lyonnaise, l'ensemble correspondant spécialisé dans la musique baroque, lance aussi en mars une fondation abritée. Auparavant, le musée des Beaux-Arts de Lyon est lui aussi passé par Bulukian. Donc, si ce type de modus operandi a aujourd'hui autant de succès, comme on le voit en particulier à Lyon, du fait de la présence de Bulukian, de cette fondation dans la ville, c'est, comme on l'a dit, pour la transparence que cela offre entre les mécènes et la structure, mais aussi pour des raisons fiscales. Je donne un exemple très clair. Un particulier ou une entreprise veut donner 100 000 euros à une structure. Si la structure reçoit l'argent directement, elle devra le dépenser en totalité dans l'année, sinon elle payera bien sûr dessus l'impôt sur les sociétés. Or, si elle passe par une fondation, elle n'est pas obligée de dépenser la somme tout de suite, qui est donc dans la fondation, sans pour autant payer d'impôts. Elle se construit ainsi une trésorerie d'argent privé. Reste néanmoins à savoir maintenant si entre l'opéra, l'orchestre et la musique baroque, il ne risque pas d'y avoir à Lyon une concurrence trop forte dans la recherche de fonds privés. Le maire de la ville, Gérard Collomb, soutient d'Emmanuel Macron, doit en tout cas se réjouir de voir les structures subventionnées développer ce type de stratégie.
Merci Antoine Pecker. Ce genre de fondation abritée, Bernard Faucroul, vous qui avez été à la tête de maisons d'opéra et de festivals, ça vous semble une option intéressante, une piste intéressante ?
C'est presque une obligation aujourd'hui. Le festival dispose depuis quelque temps d'un fonds de dotation qui est à peu près l'équivalent, mais enfin qui n'est pas abrité, qui est autonome et qui est lié au festival. Et puis nous avons également ce qu'on appelle en anglais des charities à New York et à Londres pour recueillir les dons des amis américains et britanniques qui bénéficient également dans leur pays de cette déductibilité fiscale dont on vient de parler. Donc effectivement, ça fait partie des instruments qui sont mis en place depuis le début de ce siècle, et je pense que ça va continuer, parce que tout autant nous avons besoin de manière pérenne du soutien des pouvoirs publics, mais pour assurer le développement de nos institutions, nous devons aller chercher des fonds complémentaires. Et donc, qu'il s'agisse d'entreprises et de particuliers, je pense qu'on va entrer dans une période où les particuliers vont apporter des contributions de plus en plus importantes et substantielles pour permettre justement la réalisation de grands projets culturels. Il faut qu'on ait les instruments adéquats.
Et puis ça permet aussi d'ouvrir le festival à l'international aussi. Je crois que c'était vraiment un de vos objectifs, de développer cette dimension internationale du Festival d'Aix. Vous êtes désormais présent à New York, vous avez signé un accord de coopération avec le Bahreïn, un Festival d'Aix à Moscou aura désormais lieu tous les 2 ans depuis cet automne, un festival également présent en Chine.
Oui, alors nous étions pour la première fois à Pékin avec le Songe d'une nuit d'été dans la mise en scène de Carsen en octobre dernier. C'est le début d'une collaboration qui va s'étendre sur au moins 5 années avec le Festival de Pékin. C'est important, c'est un lieu qui est que je qualifierais de progressiste sur le plan de la culture en Chine, et donc c'est important d'avoir ce type de relation. Nous serons à Moscou au mois d'avril avec Written on Skin et Trauernacht, les cantates de Bach dirigées par Raphaël Pichon, deux productions de Katie Mitchell, et là aussi je trouve formidable ce choix-là qui était opéré par le Bolshoï d'inviter une grande création contemporaine qui a vraiment marqué l'année 2012 et puis les années qui ont suivi. Et je suis très curieux de voir comment le public moscovite va réagir, va apporter sa propre contribution, puisqu'à mes yeux, un public est toujours... Il fait partie d'une production, il n'est pas à l'extérieur, c'est pas des consommateurs, et on a besoin de cette générosité des spectateurs pour que le spectacle prenne toute sa dimension.
On va se plonger tout de suite dans ce festival, cette 69e édition du Festival international d'Alléric d'Aix-en-Provence avec Carmen, Georges Bizet.
Ça bonjour, va bonjour.
Un extrait de Carmen de Georges Bizet qui sera l'une des six productions à l'affiche de cette 69e saison du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui se tiendra du 3 au 22 juillet prochain. On écoutait ici Teresa Berganza que vous souhaitiez entendre ce matin, Bernard Faucroul, mais c'est la mezzo Stéphanie Doustra qui tiendra le rôle de la célèbre cigarettière cet été. Carmen, un personnage finalement libre qui ne cède à aucune menace. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'opéra en général? Est-ce que l'opéra est un art rebelle? Bernard Faucroul.
Il y a certainement une part de grande liberté dans le monde de l'opéra. Je crois d'ailleurs que l'opéra n'aurait pas connu au XVIIe siècle l'essor prodigieux qu'il a connu dans des villes comme Venise, par exemple, s'il n'y avait pas eu une liberté un peu exceptionnelle à l'époque, qu'on n'avait pas à Rome, qu'on n'avait pas dans d'autres villes. Et progressivement, l'opéra s'est imposé dans tous les pays européens, avec des couleurs locales, certes, mais avec une très très forte dimension européenne. Et si on suit son histoire, il est vraiment lié à la question de la liberté, c'est-à-dire et son contraire, qui était la censure, qui était extrêmement présente pendant plusieurs siècles. Il a fallu que librettistes et compositeurs louvoient avec la censure, adaptent encore Mozart certainement, mais Verdi n'a cessé de devoir composer avec la censure, de trouver des moyens. On se souvient du bal masqué, mais aussi de beaucoup d'autres œuvres dans lesquelles il a dû parfois même renoncer à des projets ou en tout cas les transformer. Et il me semble que si on regarde ça d'une manière globale, comme une sorte de phénomène historique, on pourrait aussi considérer que l'opéra a contribué à développer les libertés. Je pense que au XVIIIe siècle, l'opéra jouait vraiment un rôle important avec des compositeurs comme Gluck, Mozart et dans une certaine mesure même Handel et pas mal d'autres pour l'avènement des Lumières. C'est-à-dire que il y avait visiblement une grande aspiration des artistes, des intellectuels à l'époque pour un changement social, pour une plus grande liberté. Ça a conduit à la Révolution française ici, ça a conduit à d'autres transformations ailleurs. Et l'opéra n'a jamais été complètement extérieur de ces transformations. Même chose en Italie au XIXe siècle, en Allemagne, à la même époque. Et aujourd'hui, je pense encore que l'opéra, peut-être, il ne l'est pas toujours, mais il peut être un vrai enjeu de réflexion, de débat et de questionnement sur le sens du monde et sur le sens de tout ce patrimoine.
Et aujourd'hui, est-ce que vous, Bernard Faucroul, vous avez pensé cette édition du festival qui se déroulera l'été prochain, un peu à l'image de notre monde actuel où certaines valeurs de liberté, de démocratie sont fragilisées?
Alors vous savez, quand on fait une programmation d'opéra, c'est un processus qui se déroule sur on pourrait se dire, mais choisir 6 titres d'opéra, on fait ça en une après-midi, certes, sauf que ça prend des années. Mm-hmm. C'est un processus qui est lent, qui va dépendre des rencontres, de ce qu'on a envie de faire soi-même, dans l'équipe, les artistes que l'on a envie d'inviter, et leurs souhaits à eux. Donc tout
et
ce,
les prémices
tout ça,
de cette saison, alors, remontent à quand?
Probablement à 4-5 ans pour certains projets, etc. On va parler tout à l'heure du Rex Progress et de Simon McBurney. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir convaincre Simon McBurney de mettre en scène son troisième opéra, qui sera ce chef-d'œuvre de Stravinsky. C'est tout un processus qui prend du temps, etc.
Et à un moment, ça a été difficile de le convaincre.
Parce que c'est un artiste très exigeant, notamment vis-à-vis de lui-même. C'est un très grand metteur en scène de théâtre. Il adore la musique, mais il a refusé jusqu'ici la plupart des propositions que lui ont adressées les maisons d'opéra. Parce que d'un côté, je pense qu'il souhaite travailler dans les meilleures conditions possibles en termes de travail scénique, scénographique, la lumière, le travail avec les chanteurs, etc. Et puis d'autre part, que comme il est très très exigeant et donc il ne veut pas se tromper d'œuvre et être certain que l'angle qu'il va adopter va être un angle juste, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui est très passionnant à accompagner parce que c'est très riche et même l'exposé des difficultés permet d'avancer parce qu'une fois qu'on a identifier un problème, on peut mieux le résoudre. Du coup, la question de, par exemple, de la liberté qui est très présente au cœur de ce festival, elle s'est révélée progressivement. On ne s'est pas dit il y a 3-4 ans, on va faire un festival sur le thème de la liberté. D'ailleurs, pour moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça, parce que sinon, c'est comme si la programmation devenait l'illustration d'un concept. Ce qui est pas trop mon truc. Mais par contre, de voir à un moment donné comment un thème traverse une programmation, et là, on le voit dans la programmation de cet été, avec des figures des figures rebelles, comme Carmen et Don Giovanni, qui sont, côté masculin et féminin, presque le miroir l'un de l'autre, même si les opéras sont complètement différents et l'action n'a pas grand-chose à voir. Il y a vraiment une force de rébellion, d'une liberté qui est portée dans une certaine mesure à son extrême. Et puis dans le Rex Progress, la question de la liberté, je pense qu'elle est tout à fait, elle est posée autrement, mais elle est passionnante, cette sorte de descente en enfer d'un individu qui avait tout pour réussir dans la vie et puis qui se laisse entraîner par un personnage sombre et méphistophélique. Et même Pinocchio, dont on va parler tout à l'heure, qui est devenu un mythe universel, c'est finalement une très très belle, un très beau récit initiatique sur l'apprentissage de la liberté. Et c'est au moment où Pinocchio apprend à bien user de la liberté, qu'il devient un petit garçon et qu'il accède à l'humanité.
8h24 sur France Musique, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de The Rex Progress de Stravinsky. L'air d'un True Love sans nouvelles de Tom qui s'écrit « Je vais le rejoindre ». Thank you. Deborah York interprétait à l'instant l'air d'And True Love, I Go To Him, extrait de l'opéra d'Igor Stravinsky, The Rake's Progress. Deborah York accompagnée ici par l'Orchestre Symphonique de Londres que dirigeait John Eliot Gardiner. Bernard Faucroul est l'invité de la matinale sur France Musique pour nous parler de cette 69e édition du Festival d'Aix-en-Provence. Un festival qui s'ouvrira avec une création. Pinocchio de Philippe Boussemans, une manière de rappeler l'importance et la place que vous faites, vous Bernard Faucroul, à la création au sein de ce festival.
Absolument, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui a, pour moi, la création est absolument essentielle. Pourquoi ? Parce que nous voulons que l'opéra soit un art vivant. Nous voulons que ce ne soit pas un art poussiéreux qui soit tourné uniquement vers le passé, même si ce passé est absolument fabuleux. Et pour qu'il soit vivant, il faut qu'il soit nourri régulièrement de créations de toutes sortes, dans tous les styles. Et je suis très heureux, particulièrement cette année, d'accueillir cette création qui est liée à deux artistes qui sont très proches. Philippe Boussemans, qui est un artiste que j'accompagne depuis plus de 40 ans, qui était compositeur en résidence à La Monnaie pendant ma direction, et qui a écrit une série d'opéras qui ont tous rencontré un succès qui va bien au-delà des spécialistes et des amateurs de la musique contemporaine,
oui,
des initiés.
Tout à fait.
Et c'est ça qui me semble important. C'est qu'aujourd'hui, l'opéra, je pense, peut jouer un rôle dans ce domaine-là. C'est grâce à la dimension du récit, de la mise en scène, de tous les aspects qui font l'opéra, on peut toucher un public qui est beaucoup plus large que celui qui fréquente habituellement les lieux dédiés à la musique contemporaine. Et puis, Joël Pommerat,
metteur en scène,
auteur et metteur en scène, grande personnalité française et européenne aujourd'hui, qui a une œuvre théâtrale tout à fait majeure et qui a notamment écrit 3 pièces de théâtre inspirées par des contes d'enfants. Et
oui,
Pinocchio
est
l'une des
J'allais
3.
J'allais dire, c'est quelqu'un qui vraiment s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, Joël Pommerat.
Et c'est ça qui me passionne beaucoup, parce qu'on pourrait se dire, bon, Pinocchio, voilà le Festival d'Aix qui fait une programmation jeune public. Ben pas du tout. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien sûr d'un opéra qui doit être, que nous avons voulu et que les artistes veulent être accessibles aux enfants à partir de 7-8 ans. Donc on espère beaucoup que les familles vont venir avec parents, grands-parents, et que ce sont parfois les enfants qui vont emmener les âgés, les parents à l'opéra. Il y aura aussi un gros travail qui va se faire avec les écoles, bien sûr, dans tout l'entourage du Pays d'Aix et de Marseille.
Oui, en amont du festival.
Voilà, mais c'est surtout un opéra grand public. Et voilà, je me réjouis beaucoup que ces deux artistes, qui ont déjà collaboré sur un premier opéra qui était Au Monde, puissent revenir à Aix avec une proposition aussi forte que celle-là. Ça fait des années que j'avais suggéré à Philippe Boussemans d'écrire un opéra pour enfants ou un opéra, voilà. Et c'est devenu ce projet qui est quelque part pour moi un rêve.
Dans le Au Monde de Philippe Boussemans, c'était à La Monnaie, donc vous le disiez, hein, ce duo Pommerat-Boussemans qui avait déjà collaboré ensemble sur cet opéra en 2014. Eh bien, je vous propose, Bernard Faucroul, vous qui dirigez depuis 10 ans tout juste le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, l'un des plus prestigieux festivals de musique d'opéra au monde, un festival né en 1948, à l'inverse, comment un nouveau festival de musique naît-il aujourd'hui? Voilà, c'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui en compagnie compagnie de Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Saskia, bonjour Bernard Foucroul.
Et pour répondre à cette question, vous avez choisi l'exemple d'un festival qui prépare sa première édition. Ce sera du 31 mars au 2 avril à Nantes, son titre « Variation ».
Est-ce que vous avez reconnu ce thème? C'est devenu un standard de jazz. Watch What Happens, thème de Michel Legrand, écrit à l'origine pour le film Lola de Jacques Demy. Michel Legrand va jouer au piano en solo. Ce sera le samedi 1er avril dans la salle tout en bleu et or du théâtre Gralin, l'opéra de Nantes, en face duquel Lola, Anouk Aimée dans le film, danse justement dans un cabaret. Michel Legrand à l'opéra, c'est l'un des rendez-vous de ce festival Variation. Il aura lieu à différents endroits de la ville de Nantes, la cathédrale, Saint-Pierre, un manoir dans un parc, une chapelle. Mais l'essentiel des concerts, ce sera au lieu unique, la scène nationale de Nantes, ce centre culturel qui a ouvert en 2000 sur le site des anciennes usines des biscuiteries LU. Et c'est une fondation d'entreprise, la fondation BNP Paribas, pour ne pas la nommer, qui en est à l'origine. Ils avaient de l'argent à investir dans un nouveau projet culturel. Le lieu unique a donc fait des propositions et ça a marché. Patrick Giguère est le patron, le directeur du lieu unique.
On leur a proposé cette idée de croiser les genres comme on le fait au lieu unique et les esthétiques, tout en restant dans la musique bien sûr, mais en disant on ne va pas faire un festival de jazz ou de musique expérimentale, musique électronique, mais on va prendre comme ligne de force, comme ligne de basse, un instrument, ou en tout cas une famille d'instruments, les claviers, principalement le piano, mais de façon assez large. On peut partir du clavier d'ordinateur jusqu'au clavecin, donc avoir une temporalité importante. Ce côté très interdisciplinaire, très mélange de genre, mélange de génération, croisement d'esthétique, c'est notre ADN à nous. C'est ce que l'on fait au lieu unique depuis 17 ans, depuis l'ouverture du lieu. Donc le festival forcément ressemble à ce que l'on fait et vient mélanger un peu différentes approches. Donc, et reflète notre vision en fait de la création culturelle aujourd'hui et la création artistique.
Le festival Variation est donc un festival de clavier sous toutes ses formes. Concrètement, en plus de Michel Legrand, qui va-t-on entendre, Jean-Baptiste?
Par exemple, Violaine Cochard, qu'on entend ici dans Purcell, c'est le projet de son ensemble Amaryllis avec Héloïse Gaillard et avec le clarinettiste jazz Louis Clavis. Là encore, l'interdisciplinarité. Le lieu unique travaille aussi bien avec Pascal Dussapin qu'avec des DJ hardcore. Et oui, et c'est pour ça que le clavier a été choisi comme thème, comme cœur du festival. Cyril Jollard est le responsable de la programmation musicale du lieu unique.
On a imaginé plein de pistes avant de trouver celle de ce travail autour du clavier qui nous autorisait le fait de faire aussi bien du clavecin, de l'accordéon que de l'ordinateur ou du synthé. C'était hyper important pour nous qu'on ne fasse pas un festival que de spécialistes et de mélomanes avertis. Donc on voulait des portes d'entrée qui soient grandes ouvertes. Mais c'est ce qu'on fait quand on invite Michel Legrand, c'est ce qu'on fait quand on invite Chassol, c'est ce qu'on fait quand on invite les Sœurs Labec ou quand on invite Louis Clavis. On invite aussi des répertoires. Quand on indique sur une affiche qu'il y aura la musique de Bach, de Chopin ou de Philippe Glass, on ouvre grand les portes. Et après, ça nous permet, une fois que ces portes sont grandes ouvertes, de construire une programmation en escalier la plus intelligente possible pour amener les gens, lentement mais sûrement, à aller voir des artistes qu'ils ne connaissent pas. Et tout le travail consiste à leur raconter l'histoire de la programmation, en fait.
Un festival de musique à Nantes avec un thème donné sur quelques grands week-ends, ça fait penser forcément à un autre festival, Jean-Baptiste, dont on parlait sur France Musique. On parlera, pardon, sur France Musique la semaine prochaine, la Folle Journée. On y sera d'ailleurs. Est-ce une concurrence à la Folle Journée? Comment se positionne d'ailleurs le festival Variation?
Alors non, trois fois non, c'est ce que jure le directeur du lieu unique. D'abord, certains concerts de la Folle Journée de Nantes se déroulent précisément dans cet endroit, le lieu unique. Pas de concurrence, pas de relève, et voici pourquoi, selon Patrick Giguère, le directeur du lieu unique.
Il y a vraiment des très grandes différences à la fois dans l'ambition et dans le projet entre la Folle Journée et le Festival Variation. La Folle Journée, c'est un festival de musique classique, hein, principalement. Il y a des incursions dans le jazz, il y a des incursions dans les musiques contemporaines. Nous, notre ADN, au lieu unique, c'est de faire exploser ces barrières. Et le Festival Variation, qui a une jauge beaucoup plus réduite, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres, à la fois, il ne se passe pas que le lieu unique, il y a cette spécificité d'être dans la ville de Nantes, et de croiser les esthétiques de façon beaucoup plus large, je crois, que la Folle Journée. Nous, quand on fait Johanna Brook, qui est un musicien expérimental des années 70, évidemment, c'est quelqu'un qui ne se retrouverait pas non plus à la Folle Journée, par exemple. Je crois que nous, on est un festival de découverte et de curiosité, peut-être. On est un festival moins patrimonial peut-être aussi que la Folle Journée, qui a évidemment un festival de, à la fois très renommé et avec de qualité aussi, mais sur des propositions peut-être un peu plus classiques.
Voilà, le festival Variation au lieu unique et ailleurs, à Nantes, notamment à la cathédrale Saint-Pierre pour l'orgue, avec la fondation BNP Paribas, qui a longtemps été le partenaire de la Folle Journée. Le festival Variation, donc du 31 mars au 2 avril, la billetterie est ouverte et France Musique soutient l'événement, comme France Musique soutient la Folle Journée, comme France Musique soutient le festival d'Aix.
Que pensez-vous, Bernard Faucroul, de ce nouveau festival, de ce projet, de cette, finalement, interdisciplinarité revendiquée?
Mais je pense qu'on est en plein dans notre époque là. C'est important ça. D'abord, je trouve très important d'ouvrir et que la plupart d'ailleurs des institutions culturelles aujourd'hui musicales. Je pense qu'on doit. Il y a vraiment un travail d'ouverture permanente. Organiser des courants d'air, enfin même pas les organiser, les faire, faire tomber des barrières entre disciplines, entre l'écriture et l'improvisation, entre les musiques de tradition écrite et les musiques de tradition orale. Donc je pense que là c'est vraiment très très important et je peux que me réjouir que des festivals naissent. On sait qu'il y a des festivals qui malheureusement ne tiennent pas le coup et qui sont amenés pour des raisons diverses à disparaître, mais c'est d'autant plus important d'en voir d'autres qui arrivent, qui prennent le relais et qui vont semer de nouvelles graines.
Jean-Baptiste Urbain, merci beaucoup. On va vous laisser.
J'avais une petite question, si vous permettez. Vous pensez qu'un festival aujourd'hui, pour tenir le coup, doit avoir une fondation d'entreprise privée, enfin que le privé doit avoir une part importante pour survivre précisément?
Ouais, je pense que chaque festival, chaque institution culturelle est dans une situation spécifique, mais ce qui est à peu près certain, et peut-être regrettable d'ailleurs, c'est que les fonds publics ne vont pas suffire à assurer le développement de nos institutions. Alors moi, je pense qu'il faut tout faire pour que les pouvoirs publics maintiennent et même renforcent leur soutien, parce que la culture, c'est absolument fondamental. Donc ça, je pense qu'on en est convaincu. Mm-hmm. Tout le monde n'en est pas forcément conscient, mais les territoires, les villes, les États qui investissent dans la culture s'en sortent mieux sur tous les plans. On en a besoin pour l'éducation, pour le lien social. Mais en même temps, je crois qu'il faut aujourd'hui être prêt à aller chercher des moyens nouveaux qui permettent d'ailleurs à des personnes peut-être de se rapprocher dans certains cas d'institutions culturelles, de projets, de s'y projeter, de s'y identifier. Et au fond, un festival, c'est aussi ça, c'est d'avoir un cercle de personnes proches, enfin différents cercles concentriques, si vous voulez. Alors pour moi, les primo spectateurs, ceux qui viennent pour la première fois, sont toujours extraordinairement bienvenus. Mais les spectateurs fidèles,
c'est
absolument nécessaire.
Également.
Donc il ne s'agit pas de renvoyer chez eux ceux qui nous accompagnent, au contraire, mais d'élargir le cercle.
Jean-Baptiste Urbain, merci. On vous retrouve sur francemusique.fr, évidemment. Et puis, demain, pour un nouveau reportage. On va continuer en musique à 8h40 avec la Reine de la Nuit, de la Flûte Enchantée de Mozart, incarnée ici par quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard Faucroul, Sabine Devielle. Sabine Deviel dans cet air de La Reine de la Nuit de Mozart, un extrait de La Flûte Enchantée. On la retrouve d'ailleurs dans ce rôle actuellement à l'Opéra Bastille à Paris depuis lundi. Sabine Deviel qui fait partie finalement de cette génération de jeunes chanteurs qui sont passés par l'Académie qu'offre le Festival d'Aix-en-Provence, comme Chloé Briot d'ailleurs, qui incarnera Pinocchio dans l'opéra de Philippe Boussemans, ou encore Léa Desandres qui sera elle à l'affiche de cet opéra oublié de Francesco Cavalli, Eris Mena, que vous proposerez également cet été. À quel point êtes-vous investi, vous, Bernard Faucroul, dans cette académie, dans cette, finalement, rampe de lancement pour de jeunes artistes?
Alors, pour moi, l'académie, c'est absolument fondamental. Je crois que l'identité du festival, aujourd'hui, ne peut plus se définir sans l'académie. Et quand je suis arrivé, c'est un geste fondateur formidable que Stéphane Lissner a accompli en 98 en lançant cette académie. Quand je suis arrivé au festival en 2007, pas mal de journalistes m'ont dit mais ça sert à quoi cette académie? Enfin, il y avait une sorte d'irritation. Et depuis lors, on a montré année après année notre capacité à fidéliser les artistes, à les accompagner, à les former. Ça n'est peut-être pas notre première mission, parce qu'en général, ils sont déjà très formés, mais quand même aller les accompagner dans le début de leur carrière. Et puis, c'est vrai que d'année en année, eh bien, le nombre d'artistes, on peut parler de Julie Fuchs aussi, qui sera Zerlin cette année dans la production de Don Giovanni. C'est un vrai plaisir. Alors, chaque année, nous avons des artistes issus de l'académie. Bon, on peut même citer Stéphane Degout, qui
absolument
est un petit peu la figure fondatrice, puisque c'est le premier, je dirais, la première génération de chanteurs issus de l'académie. Et puis alors, régulièrement, et en particulier cette année, nous avons une production qui est pratiquement entièrement dédiée à de jeunes artistes. Et c'est le cas de cet opéra de Cavalli, Eris Mena.
Opéra un peu que vous ressortez des...
Alors, oui, on adore ça. On
avait fait la bibliothèque. Hein,
exactement. On avait fait un peu la même opération avec Elena il y a 3 ans, avec Leonardo Garcia Alarcón, qu'on entendait il y a un petit moment dans cette émission. Cette année, c'est Jean Bellorini qui fera qui mettra en scène cet opéra, qui a été, à l'époque de Cavalli, l'un de ses plus grands succès, qui a voyagé, qui a non seulement été donné à Venise et dans toute l'Italie, mais qui a voyagé beaucoup en Europe dès le XVIIe siècle et qui semble avoir été le premier opéra jamais représenté en Grande-Bretagne. C'est dire que donc c'est pas un petit machin poussiéreux qu'on va réveiller, non. C'est une œuvre qui a, semble-t-il, fait vibrer les spectateurs de l'époque de Cavalli, dans cette époque de liberté dont je parlais tout à l'heure. Hein, liberté aussi liée au carnaval, à ces périodes de folie, de travestissement, d'intrigues amoureuses dans tous les genres, et où le tragique s'enchaîne au tendre et au grotesque, au burlesque de la manière la plus naturelle. On est vraiment en pleine italianita, si je puis dire, et donc c'est un vrai plaisir, et on va avoir toute une pléiade de jeunes artistes, notamment Francesca Spromonte, qui était déjà d'ailleurs liée au projet d'Elena, et d'autres, Léa Desandres, que vous avez signalé, puis beaucoup d'autres.
Alors, dernière production à l'affiche de cette 69e édition, ce sera Eugène Onegin, mais une version ici de concert de l'Opéra Tchaïkovski.
Oui, je ne parlerai peut-être pas d'une production, d'ailleurs, c'est plutôt une invitation au Bolchoï. Nous allons donner deux opéras au Bolchoï au mois d'avril, hein, Written on Skin de Benjamin et les cantates de Bach avec Raphaël Pichon. Donc, il nous semblait tout à fait correct d'inviter ce prestigieux théâtre au festival. Le choix de Tougan Sokiev a été de présenter Onegin, grand classique s'il en est de l'opéra russe, et on est très heureux d'accueillir son orchestre, ses chœurs et les solistes de cette grande maison. Et j'espère que les relations avec cette maison vont continuer à grandir. Il y a plusieurs coproductions qui ont eu lieu ces dernières années. Rigoletto, par exemple, Don Giovanni de Tcherniakov. L'Alcina de Katie Mitchell sera au Bolchoï l'année prochaine. Donc nous avons véritablement noué des liens tout à fait importants.
Bernard Faucroul, vous quitterez la direction du festival en 2018. C'est le metteur en scène Pierre Audi qui vous succédera pour 5 ans. Alors en 2007, vous quittiez La Monnaie avec un bilan positif. Est-ce que vous avez le même sentiment avec le Festival d'Aix?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait ce travail avec passion, avec un plaisir absolument formidable, et avec des équipes qui sont exceptionnelles. Donc voilà, je pense que c'est important de quitter au bon moment et de quitter quand les choses vont bien. C'est toujours pénible quand on voit qu'une entreprise traverse une crise et de le voir quitter dans la crise. Donc ça n'est pas du tout le cas. Le festival est en plein développement. Il a renforcé son ancrage local de manière tout à fait importante et reconnue. Il a développé une dimension internationale à travers les coproductions, les tournées, des invitations dont on a parlé aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'autres. Une forte identité sur le à la fois des productions du répertoire et puis la création. Donc je suis fier de tout ça. En même temps, c'est peut-être un peu tôt pour faire le bilan. On pourra peut-être en reparler. Mais ce qui me semble important, c'est de voir que ce festival d'Aix aujourd'hui, reconnu comme l'un des plus importants dans le monde, est vraiment devenu un lieu où le monde culturel vient se ressourcer, où de jeunes artistes viennent rencontrer des artistes majeurs. Il y a cette sorte de rencontre et de dialogue permanent qui fait que l'identité de ce festival, je pense, est plus brillante que jamais.
Et vous, Bernard Faucoul, en tant que musicien, compositeur, qu'est-ce qui vous attend pour la suite ?
Eh bien, c'est d'avoir un peu plus de temps pour mon travail musical, qui ne s'est pas arrêté, mais qui s'est quand même prolongé dans des conditions un petit peu sportive, on va dire. Et là, j'espère avoir un peu plus de temps, notamment pour écrire, pour composer, et puis peut-être aussi pour développer certains projets dans le domaine de l'interprétation de l'orgue.
Il vous a donné aussi à l'art d'être grand-père. Merci beaucoup, Bernard Faucroul,
d'être
passé nous voir ce matin.
Thank you.
Bernard Faucroul, on rappelle les dates de cette 69e édition du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Ce sera du 3 au 22 juillet pour 6 productions qu'on attend avec grande impatience. Don Giovanni de Mozart, Carmen de Bizet, Eris Ménad Cavalli, de Rex Progress de Stravinsky, Eugène Onegin de Tchaïkovski, et puis cette création de ce duo Pommerat-Boussemans, Pinocchio. La bouilletterie est ouverte.
Elle est ouverte depuis hier, avant-hier, pardon.
Alors des productions qui seront bien évidemment captées par France Musique, on vous en reparlera très très bientôt. Merci encore Bernard Faucroul d'avoir été avec nous ce matin, et puis rendez-vous cet été alors.
Merci Saskia.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.